Bonjour, je suis Claude Garceau, interniste à l'UICPQ. Je vous invite à une toute nouvelle série de balado-diffusion portant sur la publication très importante des Standards of Care in Diabetes en 2024. C'est un très gros document de 319 pages, le tout divisé en 18 chapitres. Mais que de changements depuis les 4 dernières années en diabète. Évidemment, on ne s'attend pas de vous que vous lisiez tout ce document de référence. J'aurai le plaisir dans les prochaines semaines de converser avec des experts de notre région et grâce à nos discussions, nous l'espérons, pouvoir faire ressortir les changements importants apportés dans la pratique, dans le diabète et noter peut-être les écarts avec la pratique actuelle. Comme Diabetes Care le permet, nous vous enverrons aussi pour consultation chacun des chapitres au fur et à mesure de nos discussions et ils seront disponibles aussi sur la plateforme coeur-poumon-s.ca dans la section Diabète Métabolisme, avec un encore sur ces podcasts en particulier. Je suis certain que vous soyez médecin, infirmière, pharmacien, nutritionniste ou étudiant en médecine, que ces balados pourront vous permettre d'affiner votre pratique en diabète. Aujourd'hui, mon invité est Émilie Vigneault-Simard, infirmière IPSA spécialisée en santé cardio-métabolique. Ce premier balado porte sur le chapitre du diagnostic et la classification du diabète.
Donc, bonjour, Dr. Garceau. Si on s'attaque aujourd'hui au cœur du sujet, les critères diagnostiques du diabète qu'on retrouve dans les guidelines de 2024 ne semblent pas vraiment avoir changé, n'est-ce pas?
Ben non, pas vraiment. Donc, on a toujours l'hémoglobine K à 6,5% à deux reprises. On utilise encore dans certaines circonstances le test de tolérance au glucose de 75 grammes avec une valeur de 2 heures supérieure à 11,1. Encore là, ça prend deux tests différents. Ou deux glycémies à jeun. Espacé d'une certaine période de temps supérieure à 7 millimoles. Évidemment, le critère 11,1 de glycémie en tout temps si le patient a des signes de décompensation diabétique demeure suffisant pour faire un diagnostic. Puis dans le guidelines, on nous fait porter attention au fait que l'hémoglobine glycée peut être affectée par plusieurs variables qui vont fausser sa valeur pour faire le diagnostic de diabète. Donc, l'anémie, la thalassémie, le déficit en folate, l'insuffisance rénale, certains médicaments en HIV, les patients qui sont sous traitement avec de l'érythropoïétine. Et dans ces cas-là, on va s'en remettre surtout à la glycémie à jeun. Il faut savoir aussi qu'il y a de petites différences raciales qui existent dans l'hémoglobine K. Puis évidemment, dans le guidelines, on a fait tendance, on doit parler des différences raciales. On mentionne donc qu'il y a une différence d'environ 0,3% dans l'hémoglobine glycée entre les caucasiens et les noirs d'origine africaine, mais on ne devrait pas en tenir compte, malgré tout, dans le diagnostic. Cependant, puis ça c'est Claude Garceau qui parle, mais aussi le guidelines le mentionne, c'est que les patients qui ont des déficits en GCPD ou des thalassémies, il est possible que le laboratoire central refuse d'analyser l'hémoglobine glycée et vous fasse même systématiquement une fructosamine ou vous dise d'utiliser d'autres tests pour faire le diagnostic.
J'ai trouvé intéressant, moi, d'apprendre, en fait, qu'il y a plein d'études qui ont démontré que l'association de l'hémoglobine glycée avec le risque de complications était similaire chez les personnes noires et les populations caucasiennes. Donc, il semble que cette différence-là ne semble pas influencer beaucoup là, le devenir des patients en termes d'atteinte des organes cibles. Si on change de sujet, il n'est pas toujours aisé de faire la différence entre un diabète de type 1 et un diabète de type 2 en clinique chez l'adulte au moment du diagnostic. Quelles sont les pistes données par l'ADA cette année pour améliorer notre diagnostic et bien différencier le type 1 du type 2?
Donc, les principaux facteurs qui différencient mieux entre un type 1 et un type 2, c'est évidemment l'âge au diagnostic. Si on a un patient qui est diabétique qui a moins de 35 ans, puis un indice de masse corporelle au moment du diagnostic inférieur à 25, évidemment, ça favorise le type 1. Il y a aussi la présence de perte de poids, la glycémie supérieure à 20 au moment du diagnostic. 50% des patients de type 1 vont présenter de l'acidocétose, mais la seule présence d'acidocétose ne signifie pas nécessairement qu'on est en présence d'un diabète de type 1. Certains patients d'origine africaine font de l'acidose temporaire et ne sont pas des types 1. On appelle ça les flatbush diabetes en anglais. Donc, il faut savoir que ça existe et que l'acidocétose n'est pas l'indice nécessairement d'un type 1, ça peut se retrouver dans le type 2.
Donc, il y a une approche qui est proposée dans l'ADA, AA, BB, CC comme outil clinique pour permettre de distinguer les différents types de diabète. Expliquez-nous en quoi ça consiste, Dr. Garceau.
A, c'est l'âge, en bas de 35 ans. A, encore là, auto-immunité familiale ou personnelle. S'il y a une histoire de diabète de type 1, ben, dans la famille, ça favorise le diagnostic. B, pour body weight. Alors, si on a un indice de masse corporelle en bas de 25, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ça favorise le type 1. Background, antécédent familial de type 1. C, contrôle du diabète. Alors, si vous avez un patient, vous donnez plusieurs hypoglycémies oraux, puis vous parvenez à rien, puis vos glycémies demeurent élevées, c'est un excellent critère, même dans ma pratique, pour favoriser la recherche d'un diabète de type 1. Puis les comorbidités, évidemment, maintenant, si on a un patient qui a un cancer, qui a une immunothérapie, on peut provoquer en dedans de quelques semaines, ou même en quelques jours, un diabète de type 1 qui demeure même si on arrête l'immunothérapie.
Super, donc ça nous enligne un petit peu, puis il reste qu'il y a un débat important là, qui existe dans l'appellation du diabète LADA versus type 1. Qu'est-ce qu'il y en est là? Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux?
Ben en fait, le LADA, ça ne devrait plus exister. Ce sont des diabètes de type 1 avec une destruction plus ou moins lente des cellules bêta. Le LADA se caractérise par la présence d'anticorps contre les cellules bêta. La plupart du temps, c'est des anti-GAD. D'autres anticorps ont été décrits au cours des années, les anti-ILO-IA-IA2 et les ZNNT8. Et la présence de ces anticorps augmente beaucoup la possibilité d'un diabète de type 1, mais il est possible d'avoir un diabète de type 1 sans ces anticorps. Si ça fait très longtemps que le patient est diabétique, il peut épuiser son potentiel de faire des anticorps et il a détruit ses cellules bêta, il est quand même un type 1. Il existe un excellent organigramme dans le guide à la page 75. Faites-vous un screenshot, mettez-les dans votre téléphone. Alors, on nous dit que si les anticorps sont négatifs et que l'âge est de moins de 35 ans, qu'on a encore des doutes sur la présence d'un type 1, on peut utiliser une autre chose qui s'appelle le C-peptide. Le C-peptide, c'est une petite particule qui est attaché à l'insuline et qui est dégradé, votre insuline naturelle, et qui est dégradée lorsque l'insuline est activée. Donc, la présence de ces peptides, ça nous donne une idée de l'insuline native. À savoir aussi que l'insuline qu'on donne de façon exogène n'a pas de ces peptides. Donc, si on mesure le ces peptides et que la glycémie au moment du diagnostic est supérieure à 10, bien, ça nous aide. Alors, si on a un C-peptide en bas de 200, on est, malgré l'absence d'anticorps, on est très probablement en présence d'un diabète de type 1. Si le C-peptide est entre 200 et 600, c'est une zone grise. Au-dessus de 600, on doit penser que c'est un type 2. On peut le considérer comme un type 2. Entre 200 et 600, on nous recommande de retester le C-peptide après une certaine période de temps. Dans l'article, on nous dit 5 ans. Je pense que c'est peut-être ça, c'est Claude Garceau qui parle. Peut-être que ça serait utile de le refaire après quelques mois pour être sûr qu'on n'est pas en présence d'un diabète de type 1 qui se dégrade rapidement. Une fois qu'on a fait notre diagnostic de LADA, entre guillemets, est-ce qu'on peut utiliser des inhibiteurs de la SGLT2? La réponse est non. L'addition d'inhibiteurs de la SGLT2 peut provoquer une acidose.
Donc, on a parlé des anticorps anti-GAD, anti-ILO, IA2, ZNT8, mais est-ce qu'on analyse ces anticorps-là au Québec? Est-ce que c'est facilement accessible?
Bien, pour les anti-GAD, c'est très facile d'accès. En dedans de quelques jours, vous allez avoir le diagnostic. Pour les anti-ILO, IA2 et ZNT8, ça devrait être, je pense que ça demande une expertise, ça fait partie de la spécialité. Il faut remplir des formulaires hors Québec. Le biochimiste vous envoie ça, vous pose plein de questions. Donc, dans ces cas-là, je pense que vous pouvez faire appel à nos services ou à des services spécialisés pour vous aider à faire le diagnostic.
Super. Passons maintenant au diagnostic du prédiabète. Il y a un tableau très complet qui étoffe les caractéristiques des gens qu'on devrait dépister. Donc, on parle des personnes qui ont un IMC supérieur à 25 ou chez les Asiatiques supérieur à 23 qui ont un facteur de risque et plus. Donc, parmi les facteurs de risque, il y a avoir un parent du premier degré avec des antécédents de diabète, donc père, mère, frère, sœur, avoir une origine ethnique à risque élevé, donc on pense aux Afro-Américains, aux Latinos, aux communautés des Premières Nations, aux gens qui sont insulaires du Pacifique également, les gens qui ont des antécédents cardiovasculaires, les hypertendus supérieurs à 130 sur 80, ou ceux qui prennent la médication pour l'hypertension artérielle. Les gens qui ont des valeurs de HDL dans leur bilan lipidique inférieures à 0,9 ou des triglycérides supérieurs à 2,8 millimoles par litre, les patients qui ont des syndromes des ovaires polykystiques, donc le SOPK, les patients sédentaires, donc une grande majorité quand même des patients qu'on voit en clinique, puis toutes les autres situations cliniques là, qui sont associées à la résistance à l'insuline, donc on pense à l'obésité sévère, la découverte d'acanthosis nigricans là, à l'examen physique.
Il y a un outil, je pense, qui peut être utile, qui vous est présenté.
Absolument, le Diabetes Risk Test qui permet là, d'évaluer le risque de développer un diabète. Donc, c'est un outil assez simple d'utilisation. Là. Ça requiert l'âge, le sexe, les antécédents de diabète gestationnel, la présence d'antécédents familiaux à nouveau là, de premier degré, diabète HTA, sédentarité et poids.
Quels sont les critères du prédiabète finalement?
Le diagnostic du prédiabète va se poser quand on a des valeurs d'HbA1c entre 5,7 et 6,4 %, donc un peu différent hein, des guidelines de Diabète Canada de 2018. Pour les glycémies à jeun, on va parler de prédiabète lorsque les glycémies sont entre 5,6 et 6,9 millimoles par litre. Puis pour l'hyperglycémie orale provoquée de 75 grammes, 2 heures post, entre 7,8 et 11,0 millimoles par litre, on parle de prédiabète. Il y a une revue systématique vraiment intéressante qui a été faite auprès de 44 000 patients qui a démontré qu'il y a le risque à 5 ans de développer un diabète chez les patients qui avaient des glycées entre 5,5 et 6 %, était 9 à 25 %, puis chez les patients qui ont une glycée entre 6 et 6,5 %, donc à proprement dit là, les critères de Diabète Canada de 2018, le risque là, est de 25 à 50 %. Donc, ça importe de suivre de façon rapprochée ces patients-là, puis à mon sens, à moi, c'est une fenêtre d'opportunité extraordinaire là, pour la prévention, pour le changement des habitudes de vie, pour éviter que les patients développent un diabète. Une nouvelle recommandation aussi qui consiste à rechercher la présence de diabète et de prédiabète chez les patients à qui on débute un antipsychotique de deuxième génération. Donc, on sait que dans cette population-là, il y a une prévalence pas mal plus forte de maladies cardio-métaboliques. Donc, ce qui est recommandé dans l'ADA, c'est d'effectuer une mesure au baseline, puis 12 à 16 semaines après le début de l'antipsychotique de deuxième génération, puis ensuite de continuer à suivre de façon annuelle soit une glycémie aléatoire, une glycémie à jeun, une glyquée pour ces patients-là. Donc, il y a certains antipsychotiques qui sont à pire risque métabolique comme que d'autres. Donc, l'haloperidol, la clozapine, la quetiapine et la risperidone, c'est un peu les pires là, de la gang. L'aripiprazole, quant à lui, là, va être un peu plus neutre. Ainsi que la ziprasidone, que moi je connais très peu, là, que je n'ai pas vu très souvent.
Donc, il y a d'autres catégories de patients chez qui on devrait faire le diagnostic de diabète ou prédiabète. C'est les patients qui sont traités avec HIV. Ces patients-là sont pas mal à risque, donc faire des tests de glucose 3 à 6 mois après le début des traitements. Parce qu'on peut avoir dans à peu près 5% des patients du diabète et 15% sont prédiabétiques. Il y a un calculateur de risque qui est fourni. Il y a aussi les patients avec les pancréatites. Il est recommandé de chercher le diabète 3 à 6 mois après le diagnostic de pancréatite parce que la pancréatite peut s'accompagner d'un déclin des cellules bêta. Quand on a des doutes sur la pancréatite chronique, que le patient a de la diarrhée, bien, un des tests qui nous permet de faire le diagnostic, c'est évidemment les calcifications au CT. Puis on peut faire un test qu'on appelle élastase, qui est un enzyme qu'on va retrouver dans les selles lorsque le patient a une insuffisance pancréatique. En fibrose kystique, bon, c'est peut-être pas votre tasse de thé tous les jours, mais on doit faire le dépistage, surtout avec la test de tolérance au glucose. L'hémoglobine liquée chez ces patients-là est un mauvais outil prédicteur du diabète. Et la dernière catégorie, c'est les transplantés. On devrait faire un test de tolérance au glucose 45 jours après le transplant. Alors, qu'est-ce que ça change de trouver un diagnostic de prédiabète? Et c'est surtout que ça traite le traitant. On devient beaucoup plus agressif dans le traitement des facteurs de risque, surtout en cardiovasculaire. Puis on est capable d'éviter que le patient se ramasse à l'urgence avec des glycémies décompensées par manque de suivi.
J'ai rien lu par rapport aux patients cirrhotiques dans ce chapitre-là, mais il semblerait là, que le 75 grammes soit pas mal plus sensible pour dépister également là, le diabète chez cette clientèle-là. Pour tout le monde qui est au FibroScan, là, ont un degré de fibrose F2 et plus, là, il serait recommandé pour le dépistage du diabète d'utiliser l'hyperglycémie orale provoquée. Donc, quelles sont les nouveautés par rapport au diabète maudit, le diabète monogénique?
Bien, il faut connaître vraiment cette condition parce que dans certaines formes de diabète du jeune adulte, la découverte du maudit peut permettre de repasser les patients au sulfonylurée avec une très bonne réponse. Parce que certaines formes de maudits peuvent se passer de l'insuline. Il faut penser aux maudits chez les jeunes en bas de 35 ans qui ont une histoire de diabète avec des anticorps normaux et des C-peptides normaux. Donc, ces patients-là, il y a un maudit calculator qui vous permet de faire le calcul de risque. Les tests génétiques peuvent être envoyés à l'extérieur du Québec pour rechercher le maudit. C'est probablement des patients que vous devriez référer à vos cliniques tertiaires en diabète pour qu'on précise le diagnostic et la conduite. Je vais laisser volontairement l'approche du diabète gestationnel dans ce chapitre parce que c'est pas ma tasse de thé non plus, j'ai pas d'expertise, mais un court podcast suivra sur ce point particulier. Je vous remercie vraiment de votre écoute attentive. Je vous invite à écouter nos prochains balados sur d'autres sections du guideline. Et le prochain, en fait, portera probablement sur le secteur de la néphropathie diabétique et des changements vraiment hallucinants qu'on a eu dans les deux dernières années. On est rendu à la quintithérapie. Alors, n'oubliez pas que le répertoire des podcasts se retrouve sur la plateforme Cœur Poumon avec un S.ca dans la section métabolique et que les chapitres en PDF du guideline peuvent être téléchargés de façon tout à fait légale avec la permission de Diabetes Care.